CQFD.
Rapprocher les sciences et les sports, l'idée fait son chemin. Des disciplines comme la physique, la biomécanique peuvent aider les athlètes à améliorer leurs performances. Alors que les premières places se jouent, on le sait, parfois vraiment à quelques millièmes de seconde près. En vue des Jeux Olympiques de 2024, un vaste projet de recherche a été lancé en France sur ce sujet, justement, Charlie Dupiot.
Oui, l'idée c'est de renforcer les liens entre le monde de la recherche et celui du sport. Alors d'un côté, on a les savoir-faire empiriques, les méthodes acquises par les sportifs après des années de pratique, et de l'autre, des chercheurs qui veulent comprendre les phénomènes en jeu et maximiser les performances, souvent à la demande de fédérations sportives ou d'équipes qui viennent leur poser des questions précises. Alors dans le cadre de Science 2024, il y a en fait une centaine de projets de recherche qui devraient être lancés, qui ont été et qui vont être menés dans une dizaine d'établissements. Par exemple, l'École Polytechnique, le CNRS, l'ENS Paris et bien d'autres. 56 disciplines sportives sont concernées. Et à l'origine de cette initiative, Christophe Clanet, directeur de recherche CNRS. Il dirige le laboratoire d'hydrodynamique, le LADIX, rattaché à l'École Polytechnique et au CNRS. Et en fait, depuis une dizaine d'années, il s'intéresse à la physique du sport, un domaine de recherche qui est encore très peu exploré.
Et ça va nous intéresser particulièrement ici en Suisse. Je regarde Catherine Erard, vous êtes amatrice de ski.
Oui, un petit peu.
Oui, un petit peu, moi aussi. Oui. Charlie, vous en faites vous-même?
Un petit peu, mais
voilà.
J'y ai moins accès.
Oui, effectivement, oui, vous êtes basé à Paris, mais en l'occurrence, Christophe Clanet voilà, se penche vraiment sur le ski, hein, c'est ça?
Oui, exactement, pour mieux comprendre le phénomène de friction, donc en fait les frottements entre les skis et la neige. Alors Christophe Clanet a été approché par l'équipe de Martin Fourcade, champion olympique français de biathlon, et notamment par les techniciens qui travaillent avec lui, qu'on appelle les farteurs. Alors les farteurs en fait appliquent différents types de cire, hein, de produits sur les skis pour leur permettre de glisser le mieux possible. Et pour mener toutes ces recherches, une station de ski en fait a été recréée sur le campus de Polytechnique, sur le parking du campus. Allez. C'est un container frigorifique, alors qui n'a pas de neige artificielle en ce moment, puisqu'on est proche de l'été et que chaque été, le container est vidé. Je vous propose une petite visite avec donc Christophe Clanet et Caroline Cohen, elle aussi chercheuse au LADIX.
Voilà.
Donc voilà le fameux conteneur.
Donc ouais, c'est là qu'on fait les expériences. Donc ici, il faut imaginer un grand tas de neige. Mais ça, on va remettre en neige d'ici l'automne. Et donc vous voyez sur la gauche le banc de traction où on tire les skis pour mesurer les forces exercées par le sol sur le ski.
Et on le voit là, ce banc de traction, donc sur la gauche du conteneur, il fait toute la longueur. Mmh. Et on voit un ski d'ailleurs qui est par terre. Et il n'y a pas besoin que ça soit en pente. Du coup.
Non, parce que là, vous pouvez voir, tout à gauche, il y a un moteur qui va venir enrouler la corde et tirer le chariot qui porte le ski. C'est plutôt le tire-fesse que la descente. Donc oui, comme il neige pas tous les 4 matins à Paris, on fabrique de la neige.
Et alors, quelle est l'idée derrière cette station de ski reproduite ?
Ah ben l'idée c'est d'essayer d'identifier la recette qui permet de minimiser la friction, c'est-à-dire ce qui va permettre de glisser le plus facilement possible sur la neige. Et donc en fait il y a une double idée. La première c'est de mettre les sportifs en confiance, dans le sens que on fait des expériences avec leur ski sur de la neige qui est de la neige de culture, qui ressemble au matériau sur lequel ils sont habitués de glisser. Et ensuite, de pouvoir faire le lien entre ces expériences qui sont faites à l'échelle du ski avec d'autres qui sont faites à beaucoup plus petite échelle et qui permettent d'identifier ce qui va maximiser la glisse, c'est l'établissement d'un film liquide entre la semelle du ski et la neige. Sauf que ce film liquide est tout petit, c'est-à-dire il a été mesuré comme faisant entre 100 et 200 nanomètres.
Ce film liquide, donc en fait, c'est l'eau qui naît sous les skis.
Oui, ben, donc la friction, donc le... Quand vous frottez les mains, vous voyez que, enfin, vous sentez qu'il y a de la chaleur qui est générée par le frottement. Mais c'est la même chose lorsque le ski glisse sur la neige. Disons, il y a de la chaleur qui est produite lors de cette friction. Et cette chaleur-là, donc sur les neiges très froides, elle réchauffe la neige, mais sans la liquéfier. Et sur les neiges un petit peu plus chaudes, ou bien lorsque vous allez un petit peu plus vite, cette friction, elle suffit à liquéfier, c'est-à-dire à faire une transition solide-liquide dans les cristaux de neige. Et donc, vous avez l'établissement d'un film liquide qui se fait entre la semelle et la neige. Et c'est l'apparition de ce film liquide qui permet de minimiser la friction. C'est-à-dire à ce moment-là, vous glissez sur un film d'eau et, au lieu de glisser sur des cristaux de glace.
Et donc, c'est ça qu'on recherche en fait, idéalement.
Mais encore une fois, il ne faut pas que ce film soit trop épais. Et donc, il y a un compromis à trouver sur l'épaisseur de ce film. Les farteurs ne nous ont pas attendus pour avancer sur ces sujets-là. Ça fait au moins une bonne centaine d'années que les gens savent qu'en changeant les conditions de contact entre la semelle et la neige, on arrive à minimiser ce coefficient de friction.
Parce que ça ralentit en fait le skieur, cette friction.
Voilà, ce que veut le skieur, c'est à ne pas être ralenti.
Et alors le fart, qu'est-ce que c'est ?
Actuellement, ce qu'on appelle fart, c'est plusieurs choses, c'est-à-dire c'est à la fois le dépôt de cette couche de cire, c'est à la fois le fait qu'on va venir faire des stries, donc des textures sur la semelle, un peu comme les textures qu'on a sur les pneus de voiture, et qui vont permettre sur les neiges, disons froides, de garder le liquide à l'intérieur du ski, c'est-à-dire sous la semelle, et dans les neiges plus chaudes, d'évacuer ce film liquide vers l'extérieur. Et donc suivant la température de la neige sur laquelle les skieurs sont amenés à patiner, disons, on va changer la forme de ces textures. Donc il y a quelqu'un qui est spécialiste de ça dans chacune des équipes de farteurs, donc quelqu'un qui est spécialiste des textures et qui les adapte en fonction des conditions du moment, c'est-à-dire des conditions de course, pour que le ski soit le plus efficace possible. Il y a très peu de travaux qui ont été faits par des physiciens et des mathématiciens dans le sport, et nous, ce qui nous a stimulé, c'est que il y a des lois à trouver. Chaque fois, on part d'un problème qui est très concret, donc ici, la glisse du ski sur la neige, et puis on va arriver, en cheminant et en essayant de répondre à cette question, à identifier un problème physique très clair et original que l'on n'aurait pas vu sans ce filtre du sport.
Quand les sports amènent aux chercheurs de nouveaux sujets d'interrogation, de nouvelles questions. Certains, on l'a entendu, réfléchissent à optimiser l'équipement des athlètes, optimiser leur matériel. D'autres s'intéressent plus particulièrement à leur mouvement, Charlie.
Oui, toute une discipline se penche sur cela, c'est la biomécanique qui étudie les mouvements du corps. Vous vous en doutez, c'est parfait pour le sport et notamment pour le golf et son swing. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce mot, Stéphane,
oui,
on ne parle pas là de musique.
C'est vraiment le mouvement du golfeur quand il tire, quoi. Enfin, quand il
frappe la balle avec un club, effectivement. Un geste qui paraît simple et pourtant, le réussir n'est pas si aisé. Alors lui s'est mis au golf, mais de loin. Philippe Rouche est professeur à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak des arts et métiers. Et il étudie ce swing depuis 5 ans. Un mouvement, selon lui, très intéressant pour la science.
En fait, faire un swing de golf nécessite d'activer quasiment l'intégralité de ses muscles sur un mouvement 3D qui doit être très coordonné, dans un timing qui est très court, c'est que 0,3 secondes. Et on se rend compte qu'être capable de faire un beau swing de façon répétable nécessite un très grand contrôle et une très grande maîtrise. Moi qui connaissais mal ce sport avant de l'analyser, vraiment j'étais surpris par la précision que sont capables de donner les gens à un haut niveau. Donc ils sont capables, à 300 mètres, d'être précis au mètre près. Parce que quand on vous tape à 300 mètres, on comprend bien qu'un tout petit écart d'angle fait que la balle, elle va partir 20 mètres à gauche ou 20 mètres à droite dans les arbres et que là, du coup, la partie peut être finie.
Et alors, par rapport à la performance, donc qu'est-ce qu'on peut améliorer encore en golf ?
Typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, un golfeur professionnel est capable de faire aller la tête du club, vous savez, la grosse masse qu'on voit au bout du manche, à plus de 55 mètres par seconde, ce qui est une vitesse considérable. Et on sait que la vitesse de cette tête de club, elle est vraiment liée à la performance. Donc tout l'objet est d'être capable de réaliser le geste qui amènera à la plus grande vitesse de club au niveau de l'impact. Donc il y a des progrès qui peuvent être faits sur le mouvement du golfeur, sur son équipement. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire.
Et alors comment vous travaillez justement concrètement ?
Le problème, c'est qu'on mesure tout ce qu'on peut. Voilà. Donc on va mesurer le mouvement en 3D des joueurs. On utilise des systèmes qui sont un petit peu les mêmes que ceux utilisés dans le cinéma d'animation. Donc si vos auditeurs vont sur YouTube, si vous regardez comment est fait le dernier Star Wars ou le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est exactement les mêmes outils.
On met des capteurs.
On met des petits marqueurs, des petites billes qu'on vient coller à même la peau des gens. On en met à peu près 100, et ces billes vont être traquées dans l'environnement 3D. Et à partir du moment où vous connaissez la position des billes, vous connaissez la position des points anatomiques du golfeur. Donc on a en fait le mouvement du golfeur en 3D. Et si beaucoup de vos auditeurs utilisent des caméras, donc des caméras normales, c'est à peu près 25 images par seconde. Vous pouvez avoir maintenant de la HD avec du 60 images par seconde. Nous, on prend au minimum 300 images par seconde. Parce que quand on est sur des sports qui ont des temps de réalisation très très courts, si vous n'avez pas assez d'images, finalement, vous voyez le début du swing et la fin. Et entre les deux, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Donc on a le mouvement. Ensuite, on a l'activité musculaire. On vient coller sur la peau ce qu'on appelle de l'EMG, de l'électromyographie, qui mesure finalement comment les muscles vont s'activer, de manière à comprendre, lors de la réalisation du geste, quelle était la séquence dans laquelle les muscles se sont activés pour réaliser le geste considéré. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient construire un modèle 3D du squelette du golfeur et qui nous permet, avec deux paires de radios, de reconstruire le corps du golfeur en 3D. Donc on a son squelette, donc on a du coup une précision sur ce qui se passe à l'intérieur du golfeur qui est vraiment unique au monde. On est les seuls à le faire et qui nous permet, quel que soit le sport qu'on va analyser, de voir comment les articulations vont fonctionner et est-ce qu'il y aurait des optimisations possibles sur ce fonctionnement-là. Donc on est vraiment dans une approche golfeur par golfeur, une approche spécifique.
Oui, en fait, c'est vraiment la recherche appliquée à l'individu.
C'est exactement ça. La biomécanique, c'est la recherche appliquée à l'individu. C'est faire de l'ingénierie du corps humain. En fait, vous et moi, on est très différents les uns des autres. On a un squelette, on le sait tous, mais l'architecture de ce squelette, même le nombre d'os, peut être différent d'un individu à un autre. La forme des muscles est différente, les timings d'activation sont différents, et vous le savez, faire un mouvement, en général, nécessite l'activation de plusieurs muscles, de façon plus ou moins synchronisée, même ça est différent d'un individu à l'autre. Donc d'arriver à comprendre finalement comment les gens mettent en œuvre leur système musculo-squelettique pour réaliser un mouvement, qui peut être n'importe quel mouvement, mais en l'occurrence qui ici est un mouvement de golf, nous permet de mieux comprendre finalement comment l'homme est capable après de bouger dans l'espace. Si vous voulez, toutes les méthodes qu'on va développer dans la biomécanique du golf, bien entendu, on va les décliner, quel que soit le sport confondu, même quelle que soit l'activité. On se sert, si vous voulez, du golf comme illustration, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'être humain en fait. Et là, on a énormément à apprendre avec les sportifs. L'avantage des sportifs est qu'ils ont l'habitude de répéter le même geste. Et quand vous les mesurez, quand vous les observez, c'est beaucoup plus facile de travailler avec un sportif que de travailler avec quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'activité physique, qui va donc se fatiguer très vite et qui va avoir une dégradation de son geste au cours de l'analyse. Donc il y a vraiment des choses qu'on peut tirer du sport. L'idée pour nous est vraiment d'arriver à décliner le programme de recherche de manière à ce qu'il ait le maximum de retombées possibles. Il est clair que de ça, on arrive à, et qu'on suit en plus ces athlètes sur de la durée, à comprendre comment ces mouvements sont bénéfiques ou délétères pour l'organisation musculo-squelettique.
Nous évoquons aujourd'hui dans CQFD le projet de recherche Science 2024 où quand la science aide les sportifs à améliorer leur performance. Tout à l'heure, la glisse des skis, à l'instant, le mouvement du corps humain, les mouvements articulaires des golfeurs professionnels. Mais il n'y a pas que les mouvements des articulations qui intéressent les chercheurs, Charlie Dupiau.
Oui, en effet, Philippe Rouge, qu'on vient d'entendre, se penche aussi sur le foot et sur le rugby, et notamment sur l'influence des chaussures et des sols sportifs sur les risques de lésions. La question, par exemple, c'est en quoi le choix des crampons peut-il prévenir les blessures quand on sait qu'en football, 70% des blessures sont des blessures sans contact, par exemple, rupture des ligaments croisés. Et cette blessure, un sportif du dimanche aussi peut en être victime.
On va s'intéresser à un troisième et dernier programme de recherche soutenu dans le cadre de Science 2024. Sur l'aviron.
Oui, avec une question simple, comment mieux ramer, plus vite, plus efficacement? Romain Labbé cherche des réponses. Il est doctorant au LADIX, le laboratoire d'hydrodynamique de l'école polytechnique, et il travaille sur des maquettes de bateaux d'aviron.
Donc ici, c'est la piscine du LADIX, en fait, c'est la salle de piscine, donc c'est ça. Donc on a construit une petite piscine avec qui fait 30 cm de profondeur et qui permet de mettre à l'eau les maquettes qu'on a fabriquées pour étudier l'aviron. Donc on a une maquette qui fait 2 mètres de long avec 8 petits rameurs dessus. Tous les rameurs sont indépendants. Et donc on peut choisir de faire ramer les rameurs tous ensemble, donc de façon synchronisée, ou alors les uns après les autres en propageant des ondes de l'avant à l'arrière, et donc c'est là où on dit qu'ils sont désynchronisés.
Et là les rameurs ce sont des petits moteurs en fait.
Exactement, donc en fait le rameur c'est un petit moteur monté sur un chariot qui se déplace d'avant en arrière, et qui reproduit le mouvement des rames dans l'eau.
En fait ces moteurs ont le mouvement de l'homme, du rameur.
Exactement. Ça fait qu'il y a un rapport de masse comme dans la réalité. Donc c'est les masses qui se déplacent sur le bateau et ça permet justement d'avoir ce déplacement de masse qui est si intéressant dans le cas de l'aviron. Là, ils rament tous vraiment ensemble. Chaque tac, c'est quand ça rentre ou ça sort les pelles de l'eau. Mais en fait, elles font un arc de cercle, les rames. Elles font un arc de cercle dans l'eau. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la maquette, on règle les paramètres, donc la cadence, la désynchronisation entre les rameurs, etc. On peut régler aussi la masse des rameurs. Après, on la met dans la piscine, on la met à l'eau. Et puis, on lui fait parcourir la longueur de la piscine. Donc là, on a 6 mètres de longueur. Et donc, on mesure comme ça la vitesse de la maquette qui avance sur l'eau. En fait, donc, dès qu'ils rament tous de façon synchronisée, il y a de larges fluctuations de vitesse. Donc, c'est ce que font les avirons réels en compétition. On pourrait imaginer que ce n'est pas le plus efficace, mais en fait, c'est le plus efficace. Désynchroniser ne permet pas de gagner de la vitesse. désynchronisée donne une vitesse moyenne qui est plus basse, due à deux effets. Donc il y a un effet de l'efficacité de la propulsion. Donc la propulsion est moins bonne quand ils sont désynchronisés, parce qu'il y a moins de pelles en même temps dans l'eau qui tirent le bateau. Et donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est le mouvement de masse des rameurs. C'est-à-dire que les rameurs, quand ils sont synchronisés, ils bénéficient d'une propulsion supplémentaire due au déplacement de leur masse, qu'ils perdent dès qu'ils sont désynchronisés, parce qu'il y a toujours un rameur qui revient pendant qu'il y en a un autre qui part.
Qui part vers l'arrière ou vers l'avant, contrairement aux autres.
Exactement. Et après, cette maquette aussi nous a permis d'étudier un peu est-ce qu'il y aurait différentes stratégies sur les phases de retour, quand sortir les pelles de l'eau, etc. Comme on peut tout régler dessus, voir qu'est-ce qui pouvait être intéressant et qu'est-ce qui pouvait vraiment faire gagner de la vitesse à notre maquette, pour essayer de trouver des idées de comment améliorer la performance en avion.
Pour les vrais sportifs.
Voilà, pour les vrais sportifs, exactement.
Et alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pu trouver comme solution?
On a trouvé des solutions justement en jouant sur la façon de revenir en position dans le bateau. En fait, quand vous revenez en position dans le bateau, généralement, ce qui est fait, c'est que dès que les rames sortent de l'eau, le rameur tout de suite se jette en avant pour recommencer le coup d'après. Mais on a vu que s'il sortait les pelles de l'eau et qu'il marquait un temps d'arrêt, et qu'après il revenait en position, et bien ça permettait de profiter de la phase d'accélération due avec les rames, de légèrement glisser et après de revenir en position, et donc de moins casser le mouvement et la fluidité du bateau. Moi, j'ai travaillé aussi sur les rames. Et donc sur les rames, là, on a essayé mathématiquement de trouver la longueur de rame optimum.
Et alors, quelle est-elle ?
La longueur de rame optimum, c'est en fait, on a découvert que plus les rames étaient courtes, plus elles étaient efficaces, et meilleure serait la propulsion, mais que de diminuer la taille de rame obligeait à augmenter les cadences, c'est-à-dire augmenter le nombre de coups par minute. Et donc aujourd'hui, physiologiquement, il y a une limite qui fait qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre de coups par minute en avion. C'est 30 coups par minute, mais ils n'arrivent pas à dépasser ces valeurs-là. Mais s'ils arrivaient à le dépasser, on pourrait réduire encore la taille des rames et ils pourraient aller un petit peu plus vite encore.
C'est la science qui va plus loin que l'humain.
Exactement. La science, elle a trouvé un optimum, mais qui est physiquement difficile à atteindre.
Ah oui, il finit à l'eau, le rameur. Effectivement, on se rend compte avec ce dernier exemple sur l'aviron que les problèmes de recherche fixent parfois aux sportifs des optimums physiques qui sont incapables d'atteindre, en tout cas pour l'instant, Charlie.
Oui, et chaque sportif doit composer en fait avec cela. L'entraîneur joue le rôle d'interface entre l'athlète et les chercheurs qui travaillent sur cette discipline sportive. Et c'est l'entraîneur qui choisira d'appliquer ou non les conseils donnés par les scientifiques à l'issue de leur recherche. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le monde du sport et celui de la recherche ont compris l'intérêt de tisser des liens. Il s'agit aussi, en rapprochant les sciences et les sports, d'attirer plus largement l'intérêt du public, de faire, comme me l'ont dit d'ailleurs plusieurs chercheurs, de la science qui intéresse les gens, mais aussi qui sait susciter des vocations. On sent l'enthousiasme de jeunes doctorants qui sont attirés par cette science qui permet de chercher et parfois même de trouver des réponses à des questions qui sont très concrètes.
Merci beaucoup Charlie Dupiau pour ce dossier donc sur ce projet français Science 2024. Et du coup, on verra les résultats de tout cela au JO 2024 et on verra si les Français seront meilleurs que les Suisses, notamment en aviron golf. Et voilà.
CQFD sur la première.